J'en viens maintenant à la présentation de notre conférencier de ce soir, Frédéric Gossin. Frédéric Gossin est né en 1937, il est journaliste et écrivain. Pour son parcours de 1964 à 1994, il a été journaliste au Monde. En 1974, il a créé le Monde de l'éducation. Et pour ses spécialités, Frédéric Gossin a travaillé sur la représentation picturale de Paris. Il s'est ainsi intéressé à la manière dont les peintres peignaient Paris de manière historique, mais aussi contemporaine. Il a également travaillé sur les visites d'ateliers, c'est-à-dire la manière dont les peintres se représentaient dans leurs ateliers ou étaient représentés dans leurs ateliers. Pour les publications, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Jacqueline Gossin-Salmon aux éditions Adam Biraud en 1998, Le 4e arrondissement vu par les peintres et Le 5e arrondissement vu par les peintres, ce sont deux ouvrages différents, publiés par, aux éditions Adam Biraud en 1998, Les enfants perdus du XXe siècle, paru aux presses universitaires de France en l'an 2000, Visite d'atelier, paru chez Adam Biraud en 2002, et Paris des peintres, chez Adam Biraud également, en 2002. Frédéric Gossin, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, suivra après un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Je vous remercie. Une grande exposition organisée récemment à Londres avait pris comme titre « Paris, capitale des arts ». Ces organisateurs voulaient dire par là que pendant toute une période qu'il datait de 1968, c'est-à-dire les trois quarts du XXe siècle, Paris, pour eux, a été le centre mondial de la créativité artistique. C'était Paris, la capitale de la modernité en art. Et curieusement, par cette argumentation, les responsables de l'exposition de Londres reprenaient l'idée exprimée par Napoléon III, inaugurant l'exposition universelle de Paris de 1855, après celle de Londres de 1851. Napoléon III avait voulu en effet que cette exposition destinée à exalter le dynamisme industriel et commercial de la France soit accompagnée d'un gigantesque salon de peinture. Il voulait montrer que le génie de la France n'était pas seulement dans la technique, comme c'était le cas évidemment chez les Anglais, mais aussi dans l'art et la culture. Ingres et Delacroix, qui étaient les vedettes de ce salon, étaient ainsi promus comme les symboles du génie de la France. C'est là une façon de voir la relation entre Paris et la peinture, c'est-à-dire le Paris comme grand producteur d'images, le Paris des salons et celui des avant-gardes, le Paris de la grande peinture et celui des révolutions formelles, le Paris de l'Institut et des Beaux-Arts et le Paris de la ruche et du bateau lavoir. Cette présence si bien affirmée de la peinture à Paris conduit à se poser une question. Les peintres de Paris peignent-ils Paris ? Paris, autrement dit, est-il autre chose qu'un vaste atelier où se fabriquent des chefs-d'œuvre ? Paris est-il un sujet de tableau ? La question peut paraître un peu bizarre, tant le peintre, avec son chevalet, son petit tabouret, sa palette et ses pinceaux, fait partie du paysage parisien. On le voit partout, sur les quais de la Seine, dans l'île Saint-Louis, au Jardin des Plantes, à Montmartre, évidemment, devant le Moulin Rouge, place du Tertre. Cette peinture-là, que nous avons toujours sous nos yeux, on peut dire que c'est celle de la vénération et de la mémoire. On peint Paris parce que c'est une très belle ville et une ville qui nous parle du passé. On la peint pour se souvenir d'elle lorsqu'on l'aura quittée ou lorsque ce Paris-là aura disparu. C'est une peinture des voyageurs, une peinture des amoureux du passé. Cette peinture-là, Paris l'a toujours connue. Et il n'est pas surprenant qu'elle ait été souvent l'œuvre d'artistes étrangers. Dès le XVIe siècle, des peintres hollandais, installés tout près d'ici, l'hôtel de la Chasse du Dragon, au carrefour de la Croix-Rouge, se sont spécialisés dans les vues de Paris. Ils peignent les bords de la Seine, dont le ciel leur rappelle ceux de leur pays. Ils peignent les églises, les palais, et puis ils les vendent aux voyageurs de passage, car le tourisme est déjà une activité très importante à Paris, en France et à Paris en particulier. Au début du XIXe siècle, c'est le peintre italien Giuseppe Canella qui fait plusieurs voyages à Paris, autour desquels il peint les boulevards, le marché aux fleurs, la rue de Rivoli, la place de la Concorde. Sur le pont au Change ou sur le pont Neuf, il aurait pu croiser l'anglais Turner, qui, à la même époque, fait le tour de Paris, son carnet de croquis à la main, pour nourrir les livres de voyage qu'il publie régulièrement à Londres. Plus près de nous, au XXe siècle, le peintre japonais Odis a consacré toute sa vie à peindre le vieux Paris, presque maison par maison, parce qu'il était hanté par l'idée que tout cela était en train de disparaître sous ses yeux. De nos jours, son compatriote Acadie continue ce travail d'inventaire, cette mission de témoignage face à la frénésie destructrice des urbanistes et des aménageurs. C'était déjà cela qui avait donné cette mission que s'était donnée le grand graveur du XIXe siècle, Charles Marion, dont le tempérament mélancolique et la haine qu'il portait à Napoléon et au baron Haussmann l'ont conduit à Charenton. Parallèlement à cette peinture de voyage ou de mémoire patrimoniale, il y a toujours eu aussi à Paris une peinture populaire, une peinture d'almanach, d'affiches, d'enseignes, de réclames, celles que l'on peut voir au musée Carnavalet, et qui représentent plus ou moins naïvement le petit peuple, les petits métiers, les boutiques, les marchands de la rue Saint-Antoine ou du quartier du Temple. Il s'agit parfois de véritables tableaux, comme ceux du peintre du XVIIIe siècle, Nicolas Radinet, qui représentent les joutes des bateliers au pont Notre-Dame ou les tavernes de la place de Grève. Cette peinture de proximité liée au déplacement et à la vie quotidienne est une activité artisanale ou commerciale. On la retrouve dans toutes les grandes cités du monde. Mais à Paris, il y a un phénomène plus intéressant, qui est que la représentation de la ville est devenue un enjeu dans l'histoire même de la peinture. La volonté de peindre la ville dans son éternité ou dans sa nouveauté a conduit les peintres à remettre en question la conception qu'ils avaient de leur art. Paris cesse alors d'être un sujet parmi d'autres, il devient pour le peintre un défi. En même temps, la possibilité même de représenter Paris dépend étroitement du vocabulaire dont les peintres disposent à l'époque où ils vivent. Il y a des moments où Paris ne peut pas être représenté parce qu'il ne fait pas partie des sujets possibles. D'autres où il ne peut l'être qu'à l'intérieur d'un système défini d'interprétation. D'autres, enfin, où il s'impose au point de dicter au peintre ses volontés. C'est cette histoire des apparitions et des disparitions de Paris dans la peinture que nous allons examiner maintenant. Lorsque les trois frères Limbourg, au XVe siècle, ou les leurs successeurs, illustrent les très riches heures de Paris au début du siècle, au début du XVe siècle. Ils accompagnent chaque mois du calendrier par l'évocation d'un château appartenant à la famille royale. Pour Paris, ils choisissent le palais de la Cité, que nous voyons ici, ou bien le Louvre et le château de Vincennes. Pour peindre la Cité ou pour peindre le Louvre, il leur suffit de dessiner ce qu'ils voient de la fenêtre de l'hôtel de Nesle, où ils sont logés chez le duc de Berry. L'hôtel de Nesle est une demeure princière située à l'emplacement de l'actuel institut qui appartient aux frères du roi Charles V, le duc Jean de Berry. C'est cette même perspective que prend Fouquet lorsqu'il représente Notre-Dame pour illustrer la descente du Saint-Esprit sur les fidèles. Le même Fouquet où les illustrateurs anonymes des livres d'histoire représentent les sites de Paris où se situent les actions des rois. Si ces artistes du Moyen-Âge peignent les grands monuments de Paris, c'est qu'ils pensent que rien de plus beau au monde. C'est une représentation à la fois réaliste et allégorique. Ils représentent le paysage avec la plus extrême minutie, mais en même temps, ils l'interprètent. Ils n'hésitent pas à l'embellir, à transformer les perspectives, à éviter, à mêler les chronologies, à ajouter ou à retrancher des éléments du décor, à éliminer tout ce qui pourrait être médiocre. Leur propos n'est pas de reproduire exactement la réalité, mais d'en exprimer la beauté quasi miraculeuse. Et cette beauté, pour eux, est d'essence divine. Le décor parisien, dans toute sa splendeur, exalte la beauté du paradis et la gloire du roi. Paris, pour eux, c'est la nouvelle Jérusalem. Grâce à ces peintres, on a une idée à la fois de la réalité de la ville et des habitants et des monuments de cette époque, et aussi de la façon dont cette ville était perçue par les contemporains. Cette conception du paysage parisien comme décor royal, comme théâtre où se déploie la gloire du souverain, on la retrouvera très longtemps dans la peinture française. À l'époque classique, évidemment, qui est dominée par l'exaltation du pouvoir monarchique. Comme dans ce tableau de Vandermeulen, représentant le passage sur le Pont Neuf du cortège de Louis XIV qui se rend du Louvre. On voit le cortège ici et qui traverse le Pont Neuf. Et le souverain se rend du Louvre au palais. Et cette représentation est particulièrement importante car Louis XIV va à la cité après la Fronde pour signifier au Parlement que désormais, le pouvoir, c'est lui. Le pouvoir lui appartient. Et la superbe vue de la Seine, avec le palais du Louvre sur la droite, que l'on voit ici s'étendre le long de la Seine, et les belles demeures de la rive gauche, est entièrement dominée par la statue d'Henri IV, ici. C'est Henri IV qui veille sur le cortège royal. Et l'on voit qu'ici, c'est la personne du roi qui donne son sens et sa vie au paysage. C'est autour de lui que s'organise le tableau. On peut rapprocher ce tableau de Vandermeulen de celui de David représentant le sacre de Napoléon à Notre-Dame, ou de celui de Delacroix représentant le Guide, la liberté guidant le peuple sur la place de l'Hôtel de Ville, ou encore de celui moins connu de Puvis de Chavannes montrant la Conciergerie sous la neige, dans le Paris assiégé de 1871. Il s'agit à chaque fois de choisir un haut lieu de l'espace parisien et de montrer comment ce lieu est le symbole d'une idée politique universelle. L'Empire, dans le cas de David, la Révolution pour Delacroix, ou la résistance face à l'envahisseur pour Puvis de Chavannes. Il y a une héroïsation du paysage parisien qui est perçue comme la toile de fond de l'histoire nationale, comme le décor sur lequel s'inscrit l'épopée de la France. Cette sublimation du paysage parisien était légitimée par la tradition de la peinture française selon laquelle le paysage urbain ne constitue pas un genre en soi, à moins qu'il n'appartienne à l'héritage gréco-romain. Les seules villes en fait dignes d'être représentées sont celles qui témoignent de l'idéal antique. Or, à Paris, il n'y a pas de forum, il n'y a pas d'arc de triomphe, comme à Rome, de colonnades, de sculptures gréco-romaines. Pierre-Antoine de Machy, qui est l'un des premiers à s'intéresser aux monuments parisiens, pour eux-mêmes, est très heureux de peindre la colonnade du Louvre en 1773, lorsque celle-ci est enfin débarrassée des bâtiments qui étaient devant. Toute cette partie-là était, toute cette partie devant était occupée par des maisons qui ont été détruites. Et pour la première fois, en 1773, on peut voir la colonnade du Louvre de Perrault. Mais quand ce même de Machy peint la place du Palais Royal, il rajoute des colonnades au premier plan pour ennoblir un peu le sujet. Il faut attendre le grand érudit et l'esprit libre qu'était Hubert Robert pour oser peindre naïvement ce qu'il voit, tout en s'amusant d'ailleurs de cette manie de l'Antiquité. Hubert Robert introduit la dérision dans l'idéal classique. Il met des ruines en plein Paris, il peint Paris en flammes, il peint les ponts qui s'écroulent, il adore les démolitions, les incendies. Chargé par Louis XVI de réfléchir à la transformation de la Grande Galerie du Louvre en musée national, il expose au salon de 1796 deux tableaux. L'un représente un projet de musée d'une conception tout à fait révolutionnaire pour l'époque, l'autre, le même musée en ruine, celui que nous avons sous les yeux, dans lequel un peintre
dernier survivant de la corporation des peintres, après l'Apocalypse. Le peintre est ici, et il peint l'Apollon du Belvédère. Hubert Robert fait souvent œuvre de reporter. Il saisit les événements parisiens, comme l'incendie du Théâtre français, la démolition de la Bastille, ou celle des maisons sur le pont Notre-Dame. Mais il ne peint pas les gens, il ne peint pas les Parisiens. À l'inverse de l'Italie, la grande peinture française de cette époque ignore le peuple, ignore la vie quotidienne de la rue, l'atmosphère des places et des marchés. Chardin, le peintre de l'intimité populaire, ne sort pas de sa cuisine. Boucher ou Fragonard peignent les boudoirs des aristocrates ou les fêtes galantes dans des parcs, mais ils ne s'intéressent pas au spectacle de la rue. Cela tient à la très rigoureuse hiérarchie des genres qui régente la production picturale, peinture religieuse, peinture d'histoire, scène de la mythologie, portrait de prince ou de mécène. Mais le paysage est un genre mineur et ne se conçoit à la rigueur que dans la nature. On peut peindre des forêts ou la mer, voir des paysans ou même des animaux, mais on ne peint pas les voisins de son quartier. Cela tient aussi à la situation sociale des peintres qui vivent dans la dépendance de la cour et des princes. La plupart habitent le Louvre, qui depuis Henri IV est devenu une vaste cité d'artistes. Ils travaillent pour le roi et pour la cour. D'autres logent dans le Marais et décorent les hôtels des princes et des bourgeois enrichis. Ces clients-là demandent des tableaux qui leur ressemblent, qui leur parlent de leur monde, de leur culture. Ils commandent leurs portraits dans des situations avantageuses et des sujets nobles qui rehaussent leur réputation. Lorsque les peintres se peignent eux-mêmes dans leur atelier, ils se présentent comme des princes travaillant dans des palais. Dans un très beau tableau que l'on peut voir en ce moment au musée Jacques Marandré, Nicolas de Largillière se représente dans son atelier de la rue Geoffroy-Langevin, qui donne dans la rue du Temple. Il est vêtu, on le voit, comme un courtisan. Il est ici. Il est vêtu comme un courtisan et son atelier ruisselle de draperies, de tentures. Son propos n'est pas de montrer son intérieur, vraiment, mais de manifester que la peinture est un art de gentilhomme. Il y a toutefois une exception de taille à cet état de choses, un tableau dont l'existence même reste presque incompréhensible par son originalité, c'est l'enseigne de Gersin, peinte en quelques jours et peu de temps avant sa mort par Watteau. C'est un Gersin, qui était son ami, tenait une boutique sur le pont Notre-Dame, et Watteau peint tout simplement l'intérieur de la boutique, avec ses clients, avec ses vendeurs. C'est une boutique qui est ouverte sur le trottoir et dans laquelle les passants peuvent entrer librement. C'est une scène tout à fait ordinaire de la rue. Watteau était d'origine populaire et provinciale. Il avait fait ses classes comme apprenti sur ce même pont Notre-Dame, qui était le centre parisien du marché de l'art. La proposition qu'il fait à Gersin est contraire à son époque, à toutes les normes artistiques. Traiter un sujet de la réalité quotidienne dans un but purement commercial. Il s'agit en fait d'un panneau publicitaire qui sera accroché au-dessus de la boutique. Cette œuvre de circonstance, totalement atypique, réalise à nos yeux un double prodige. D'une part, elle constitue un document tout à fait inestimable sur la vie urbaine de l'époque. D'autre part, par la modernité de sa facture, elle annonce les grands observateurs de la vie parisienne que seront plus d'un siècle plus tard, Daumier, Manet ou Degas. Lorsque Watteau fait l'enseigne de Gersin en 1721, il peint son quartier, qui est aussi le quartier des peintres. Jusqu'au Premier Empire, ceux-ci, on l'a vu, logent pour la plupart dans les ateliers installés dans le palais du Louvre. Ils logent aussi dans le Marais. Le marché de l'art et de la mode se situe sur les quais, du côté du quai de la Mégisserie, sur le pont Notre-Dame et dans les galeries du palais, dans l'île de la Cité. Abraham Bosse a immortalisé dans ses gravures les peintres et les graveurs qui tenaient boutique au palais et qui travaillait ouvertement devant le public. On pouvait venir y faire son portrait. Au XVIIIe siècle, les marchands de qualité se déplacent vers la rue Saint-Honoré et ceux du pont Notre-Dame ne proposent plus que des produits de deuxième choix. Dans sa très passionnante étude sur l'enseigne de Gersaint, Guillaume Glorieux a montré récemment comment Gersaint, qui sera un très grand marchand d'objets d'art, fait un peu figure d'exception en restant sur le pont Notre-Dame. À partir du milieu du XIXe siècle, se produit un phénomène tout à fait déterminant pour l'histoire de Paris et pour celle de la peinture. La ville, qui étouffe dans les limites du Paris historique, s'étend progressivement. La bourgeoisie, enrichie par la finance, dans les travaux publics ou la spéculation immobilière, acquiert de vastes terrains qui se couvrent d'hôtels particuliers et d'immeubles de rapport. Paris s'étend à l'ouest, vers les Champs-Élysées ou la plaine Monceau, et au nord, vers la chaussée d'Antin, Notre-Dame-de-Lorette. Ce mouvement démographique a des conséquences immédiates sur l'organisation des beaux-arts. Les artistes accompagnent ces nouvelles installations, à la fois pour rester proches du milieu social qui les fait vivre, et parce que la modernité urbaine leur paraît exprimer la créativité dont ils se réclament dans leur propre travail. À l'époque romantique, les milieux de l'art, du spectacle, de la littérature émigrent massivement dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, autour de la place Saint-Georges, qui devient le quartier à la mode. Delacroix, Géricault, Gavarni, Paul Delaroche habitent rue des Martyrs, rue Saint-Georges, rue Notre-Dame-de-Lorette. Certaines de ces habitations deviendront des musées de peinture, comme le musée de la vie romantique dans la maison d'Henri Schaeffer, rue Chaptal, ou le musée Gustave Moreau, rue La Rochefoucauld. Ces installations, toutefois, ne s'accompagnent pas du désir chez les peintres de représenter les lieux qui les accueillent. La peinture romantique s'évade de la réalité dans le temps et dans l'espace. Elle peint les dieux, la mythologie, les héros de l'humanité, les mers démontées ou les montagnes inaccessibles. Elle peint tout ce qui échappe à la médiocrité de la proximité. Seul Géricault, qui va faire du cheval de l'autre côté de la place de la barrière de Pigalle, fait le tableau d'un des nombreux fours à chaux de la colline de Montmartre. Mais le quartier de la Nouvelle-Athènes fournit aux peintres un milieu artistique et intellectuel effervescent. Il ne leur inspire pas de nouveaux sujets. La situation change du tout au tout dans les années 1860, lorsque Manet s'installe aux Batignolles. Manet veut être le peintre de la vie moderne, comme l'y incite son ami Baudelaire. Le manifeste de cette nouvelle peinture est « La musique aux Tuileries » de 1862. On voit où Manet se peint lui-même, on le voit ici avec son chapeau et sa canne, entouré du tout Paris artistique et mondain. Ce tableau fait scandale lorsqu'il est exposé en 1863 à la galerie Louis Martinet, parce qu'il montre la société de son temps et non plus un passé plus ou moins mythique. Il peint des femmes en crinoline, des hommes en redingotes et chapeaux de forme. Pour Manet, cette peinture des temps modernes ne peut se faire que dans le Paris moderne, celui qui est en train de sortir de terre dans les quartiers périphériques. Les peintres doivent abandonner le Paris historique qui incarne l'art du passé et s'installer dans le Paris d'aujourd'hui. Degas, qui s'est installé rue Laval, qui est aujourd'hui la rue Victor Massé, disait de Fantin-Latour, qui n'a jamais voulu quitter la rue des Beaux-Arts, « C'est très bien ce qu'il fait, mais quel dommage que ce soit un peu rive gauche. » La rive gauche, c'est l'Institut, c'est l'école des Beaux-Arts, tout ce que les jeunes peintres refusent. Le nouveau centre de gravité du Paris artistique est du côté de la place Clichy. Ce quartier où les peintres décident d'habiter va leur fournir les sujets de leurs tableaux. Manet s'installe rue Saint-Pétersbourg et peint le pont de l'Europe, les drapeaux de la rue de Berne qu'il voit de sa fenêtre, le restaurant La Tuile, que l'on voit ici, avenue de Clichy, ou bien les serveuses de la brasserie Reichshoffen, boulevard Rochechouart. Son jeune disciple Basile quitte la rue Visconti, où il s'était installé à son arrivée à Paris, près des Beaux-Arts, pour s'installer rue La Condamine. près de l'avenue de Clichy. Il se représente dans son atelier, on le voit ici, avec ses amis, le voilà, c'est lui, avec Manet, avec son petit chapeau rond, Monet, Renoir, qui est sur l'escalier, et Zola, qui est assis sous l'escalier. Ici, près de la rue de la Condamine, il est tout près du café Gerbois, où se réunissent les peintres et les écrivains de la Nouvelle École, autour de Manet, toujours lui. Et après la mort de Basile, en 1870, Renoir, son ami, que l'on voit ici, Basile et Renoir vivaient ensemble, ils partageaient le même appartement, et après la mort de Basile à la guerre de 70, Renoir reste dans le quartier, il va rue Saint-Georges. Et c'est de là qu'il peint, qu'il part avec sa toile sous le bras pour peindre le moulin de la Galette, et il va pour cela louer un petit atelier dans la rue Courtauld. Là, au moulin de la Galette, en fait, il se représente, non pas lui-même, mais avec tous ses amis, les peintres, les journalistes, les écrivains, avec qui il passait toute la journée. Degas, de son côté, peint les blanchisseuses du quartier des Abbesses, les clients du café de la Nouvelle Athènes, de la place Pigalle, ou ceux des boulevards. Il peint les danseuses et les musiciens de l'opéra de la rue Le Pelletier. Bonnard passe sa vie à représenter le quartier de la place Clichy. On voit ici la place Clichy peinte à partir de la brasserie Veplaire. Bonnard n'a pratiquement jamais quitté le quartier des Batignolles et de la place Clichy. Son ami Vuillard, lui, peint le square Vintimille depuis l'appartement de la rue de Calais, où il habite avec sa mère. Tous ces peintres montrent le petit peuple, la petite bourgeoisie, tous les gens qui animent les rues, les cafés, les boutiques des nouveaux quartiers. D'autres sont plus intéressés par la modernité technique et industrielle incarnée par les chemins de fer et les grands travaux d'urbanisme, comme Caillebotte, qui est issu d'une famille d'hommes d'affaires et qui est impressionné par l'architecture métallique du pont de l'Europe et par la majesté du quartier de la finance et du grand commerce qui se construit autour de l'Opéra et de la Madeleine. Pissarro, lui, qui est un vieil anarchiste campagnard, contrairement à Caillebotte, se passionne à la fin de sa vie pour les perspectives des grands boulevards. Il loue des chambres d'hôtel et il décide de peindre pratiquement toutes les nouvelles avenues les unes après les autres, de la place du Havre à l'avenue de l'Opéra, en passant par le boulevard des Italiens, que l'on voit ici, le carrefour de Rouault, le boulevard Montmartre. Monet, lui, s'installe dans la gare Saint-Lazare, il regarde l'arrivée des trains et les brouillards de fumée crachés par les locomotives. Il n'est pas le seul. Une récente exposition au musée d'Orsay a montré l'attrait qu'ont exercé la gare Saint-Lazare et le quartier de l'Europe sur les peintres de cette génération. Quel que soit le regard que ces peintres portent sur la réalité, ils veulent être le plus près possible de leur époque. Et ils cherchent les moyens artistiques d'exprimer les changements qu'ils ont sous les yeux. Il y a une harmonie entre l'invention sociale dont ils sont les témoins et la créativité de leur peinture. Si la peinture impressionniste commence par paraître scandaleuse à ses contemporains, son propos n'est pas de rompre avec la société de son temps, mais au contraire de l'incarner. C'est la peinture de la bourgeoisie éclairée du Second Empire et de la Troisième République, celle qui est en train de créer un nouveau Paris, une nouvelle société et un nouvel art de vivre. En revanche, c'est un phénomène d'une toute autre nature qui se produit au tout du début du XXe siècle, au-delà de la place Clichy, sur la butte Montmartre. Le Montmartre de cette époque a tout ce qu'il faut pour attirer les jeunes peintres. C'est un endroit tranquille, agréable et pas cher. On peut y vivre pour presque rien, et la misère y est nettement plus supportable qu'en ville. Ensuite, c'est le quartier de Paris, c'est le quartier que Paris va consacrer au plaisir. On y trouve des guinguettes, des restaurants, des cafés, des cabarets, des cirques. Et entraînés par le succès, ces lieux de rencontre et de débauche vont peu à peu se développer, s'organiser, se professionnaliser. Les jeunes peintres, souvent venus de la province ou de l'étranger, ne peuvent être séduits par les modes de vie qu'entraîne un tel environnement. Mais surtout, ils feront du spectacle qu'offre cette vie de plaisir la matière de leur peinture, à la fois par les sujets représentés et par le désir d'exprimer plastiquement la frénésie ambiante. Lorsque Lautrec ou Picasso ou Vendôme peignent le moulin de la galette, comme ici Picasso, ils cherchent d'abord à exprimer les frottements des corps, les stridences des musiques, les couleurs, l'énergie dépensée dans la danse. De même, lorsqu'ils peignent les acrobates du cirque Fernando, deviendra le cirque Medrano, boulevard Rochechouart, ou bien les tourbillons du French Cancan au Moulin Rouge, Place Blanche, ou l'atmosphère trouble des cabarets de Pigalle. La fièvre de Montmartre a été déterminante dans les recherches des fauves, comme Vlaminck ou Vendôme, ou dans celles d'un futuriste comme Severini, ou des cubistes à leur début. Braque peint le Sacré-Cœur. Et Blaise Sandrard raconte que c'est en se promenant avec son ami Fernand Léger, place Clichy, alors rempli d'échafaudages, de signaux lumineux et de panneaux publicitaires, que celui-ci a eu l'idée de sa peinture au rythme mécanique. La ville, écrit Sandrars, était en quelque sorte la synthèse de toutes ses visions. À peu près à la même époque, Robert Delaunay expérimentait son projet de peinture orphique avec sa série des Tours Eiffel. Pour ces peintres, ils cherchent une nouvelle façon d'assembler les formes et de rendre les sensations visuelles. Le paysage parisien sert de terrain d'expérimentation. La nouveauté d'une ville en pleine transformation répond à la radicalité d'un art de rupture. C'est un équilibre évidemment instable et qui n'a qu'un temps, et ce travail sur la réalité finira par dépasser son objet. L'évasion dans la peinture pure aboutit à exclure la réalité elle-même. Avec le cubisme, puis l'abstraction, le paysage parisien tente à disparaître du tableau. Même s'il réapparaît parfois à l'état de traces ou de souvenirs, comme dans ses promenades du bord de la Seine de Nicolas de Staël, ou dans les méditations de Helena Vieira da Silva devant les enchevêtrements de lignes de la gare Saint-Lazare. Mais on peut dire que symboliquement, une page de la peinture parisienne est tournée lorsque Picasso quitte le boulevard Rochechouart en 1915 pour s'installer à Vavin. Montparnasse a détrôné Montmartre comme siège de la modernité artistique. Lorsque Picasso s'installe rue Schœlcher, avec vue sur le cimetière Montparnasse, il y a longtemps que Montmartre est habité par les peintres, que Montparnasse, pardon, est habité par les peintres. Les artistes arrivés, membres de l'Institut et professeurs aux Beaux-Arts, sont installés depuis longtemps rue Notre-Dame-des-Champs. Les jeunes viennent apprendre leur métier dans les ateliers où l'on s'inscrit librement, dans la rue de la Grande Chaumière ou chez André Lhote. Depuis le début du siècle, arrivent en masse des réfugiés de toutes les dictatures, notamment celles d'Europe de l'Est. Ils vivent en communauté et partagent leur vie entre les ateliers misérables comme ceux de la Ruche, rue de Danzig, ou de la cité Falière, et les cafés du boulevard Montparnasse. Ils viennent à Paris parce que cette ville est à leurs yeux la Mecque de la modernité artistique. Le Tchèque Joseph Sima dit qu'il est parti pour Paris comme on partait à la Renaissance pour l'Italie. Et c'est à Montparnasse que se constitue ce qu'on appellera l'École de Paris. Beaucoup de ces peintres resteront toute leur vie à Montparnasse, parce que Montparnasse, c'est le quartier des peintres. Mais s'ils habitent à Montparnasse, ils peignent peu Montparnasse. On dira que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à peindre, à part la gare, qui passionne de Quirico, qui est l'amour des locomotives. Mais Montparnasse étant un immense atelier, c'est l'atelier lui-même qui devient le sujet du tableau. C'est un peu ce qu'exprime le peintre Nevinson dans ce tableau où l'atelier du boulevard Montparnasse et le modèle nu se confondent avec Paris, avec la vision de Paris que l'on aperçoit par la fenêtre, avec le Panthéon au bout. Les peintres de Montparnasse ne cessent de peindre leur atelier. Trémaigne peint la Ruche. Chagall, dans l'autoportrait aux sept doigts, se peint dans son atelier de la Ruche. Il se peint en train de peindre. entre ses souvenirs de la Russie et la silhouette de la tour Eiffel que l'on aperçoit par la fenêtre. Gauguin peint l'atelier de son ami Schuffenecker, Soutine peint celui de Cocteau, Giacometti semble ne jamais quitter son trou de la rue Hippolyte-Mindron, Blatas peint les peintres réunis au Café du Dôme, c'est un tableau que l'on peut voir au musée des années 30 à Boulogne. Les peintres se peignent les uns les autres, et c'est cette communauté de peintres qui représente Montparnasse. Toutefois, ce n'est pas parce que l'avant-garde artistique se détourne de la figuration que Paris disparaît complètement de la peinture contemporaine. La tradition de la peinture des quais de Seine ne s'interrompra jamais. Le plus bel exemple en est sans doute celui d'Albert Marquet, qui s'est définitivement identifié à la portion d'espace comprise entre l'île Saint-Louis et le Pont-Neuf. On pense aussi à Giacometti, entreprenant le crayon à la main à la demande de l'éditeur Thériade, la longue déambulation de son Paris sans fin. Paris sans fin qui vient d'être réédité, je le signale au passage, parce que c'était totalement introuvable. Mais à côté de cet hommage permanent au paysage parisien, il existe aussi une peinture de mœurs, une peinture de circonstances, qui peint un milieu social bien défini, le Paris bourgeois, le Paris des beaux quartiers, celui de l'Ouest, entre la plaine Monceau et Passy, entre l'Étoile et l'avenue du Bois. Là encore, il s'agit d'un phénomène à la fois sociologique et géographique, lié à l'urbanisation de la ville. Lorsque la grande bourgeoisie émigre vers l'ouest de Paris, les peintres de renom, ceux qui siègent à l'Institut, qui dirigent les salons, les Meissonniers, les Bonnat, les Boldini, Flamingue, Rolle, tous ces peintres-là suivent la clientèle. Ils se font construire de vastes ateliers dans des styles néo-gothiques, néo-renaissance ou néo-baroque, dans les rues qui bordent l'avenue de Villiers ou le boulevard Malesherbes. Certains, comme Jean Béraud ou Henri Gervais, se font avec bonheur les écotiers de cette société brillante et futile, avec ses bals, ses réceptions mondaines, ses champs de course, ses hôtels de luxe. Les Champs-Élysées et le Bois de Boulogne sont les lieux de ralliement et la vitrine de cette société du spectacle où le paraître compte plus que tout. Cet exhibitionnisme-là, évidemment, fascine les peintres. Ils s'efforcent d'exprimer cette vacuité désinvolte, joyeuse, cet étourdissement dans la mode et la mondanité. Degas adore les cabarets des Champs-Élysées et les champs de course de Longchamp. Renoir, Dufy, Vendongène peignent les écuyères dans les allées de l'avenue du Bois. Berthe Morisot, qui a toujours habité le 16e arrondissement, peint les enfants du Bois de Boulogne. Ce sont les peintres d'une société, d'une époque, les peintres d'un certain Paris, nés de l'enrichissement et de l'exubérance du Second Empire et de la Belle Époque. Il y a une peinture bourgeoise, y a-t-il une peinture prolétarienne ? Si les peintres de Paris ont exalté la beauté de leur ville, ils ont su aussi en dénoncer la cruauté. La critique sociale est au cœur des tableaux parisiens de Daumier ou de Toulouse-Lautrec, ou de Degas. Le Paris populaire, lui aussi, a eu ses peintres. C'est Stenlen, dessinant les lingères épuisées courant dans les rues de Clignancourt, Maximilien Luce, peignant les ouvriers des grands chantiers parisiens ou les morts de la commune à Ménilmontant, ou Eugène Carrière avec sa grande méditation sur le théâtre populaire de Belleville que l'on peut voir au musée Rodin. Le tchèque Joseph Sima, que j'ai cité déjà tout à l'heure, qui a une formation technique d'ingénieur, s'intéresse au paysage industriel du bassin de la Villette. Malgré tout, il faut convenir qu'entre l'ouest et l'est de Paris, entre Passy et Belleville, la balance n'est pas égale. Dans l'ensemble, la peinture de Paris fait peu de place au Paris ouvrier ou révolutionnaire. Elle s'est peu intéressée à la grande industrie ni à la misère prolétarienne. La Commune n'a pas produit de grandes œuvres. Le débat qui agitait les artistes gauchistes, anarchistes du début du siècle, pour savoir s'il fallait peindre la Révolution ou révolutionner la peinture, a été vite tranché. L'esthétique l'a emporté sur la politique, même auprès de gauchistes convaincus comme Signac. Et du coup, un grand pan de la réalité sociale parisienne a échappé à la peinture. Il a manqué à Paris, il faut le reconnaître, de grands peintres d'expressionnistes ou constructivistes comme en ont eu l'Autriche, l'Allemagne ou la Russie. Peut-être que les enfants des prolétaires ne sont pas légion, il faut bien le reconnaître, dans la corporation des peintres parisiens, et ceux qui sont issus du peuple n'ont pas envie de décrire une réalité douloureuse dont ils rêvent de s'évader. Curieusement, ce sont donc les peintres officiels de la Troisième République, ceux qui ont le contrôle de la profession, qui ont eu la charge de peindre le Paris ouvrier en décorant les mairies des quartiers populaires. Comme le peintre des beaux quartiers Henri Gervais, qu'on le voit ici exalter les bouchers, les mariniers de la Villette, sur les plafonds de la mairie du 19e arrondissement. Cette récupération du peuple par l'art officiel est le symbole paradoxal de la politique d'unanimisme social voulue par les gouvernements radicaux de la Troisième République. On a vu à quel point Paris a été le laboratoire de la créativité picturale. Où en est-on aujourd'hui? Alors que la peinture, dit-on, est en crise, et particulièrement la peinture dite figurative. Si la façon de dire Paris ne paraît plus un enjeu esthétique, la peinture n'a pas pour autant déserté la ville. On pourrait même dire qu'elle l'a réinvestie. Non plus comme sujet, mais comme support ou comme outil. On peint maintenant sur Paris, comme sur une immense toile. Je pense par exemple aux lithos collés sur les murs par Ernest Pignon-Ernest pour la commémoration de la Commune ou pour célébrer Arthur Rimbaud. On pense au montage qui mêle la photographie et la peinture, comme chez Fromanger ou comme chez Monory. On pense à Tristot emballant le Pont-Neuf ou à Buren investissant le plateau du Palais-Royal. On pense à tous ces murs peints issus de l'art brut des graffitis ou des panneaux publicitaires et qui accueillent les grands noms de l'art contemporain. Voici Ménager, par exemple, dont le petit bonhomme blanc, après avoir couru clandestinement sur les palissades, le long des palissades parisiennes, s'est installé définitivement, par la grâce d'une commande municipale, sur un mur de Ménilmontant. La peinture pénètre la ville, l'anime, la transforme. Et au moment où il est de bon ton de parler de la fin de la peinture, celle-ci, pour notre plus grand plaisir, est plus que jamais présente dans Paris, à la fois reflet et acteur de son éternel renouvellement. Je vous remercie.
Vous avez fait la part belle de votre exposé au quartier de Montmartre, sans cependant faire part d'un lieu mystérieux dont j'aimerais utiliser votre connaissance pour pouvoir le pénétrer, qui est la cité des Fusains.
Pardon ?
La cité des Fusains, ce lieu que vous devez connaître et qui a accueilli nombre de peintres. C'était un lieu à la fois d'accueil, de retrait et d'inspiration qui est méconnu actuellement sur Paris. On ne peut même plus la visiter. Donc voilà, j'interroge votre connaissance pour pénétrer ce lieu secret.
Je ne connais pas l'histoire de la cité des Fusains. C'est un lieu qui sert d'atelier, qui accueille les peintres. C'est pas un sujet, à ma connaissance, je ne sais pas, peut-être que si, mais je pense. Mais Montmartre a toujours été un centre de rassemblement d'ateliers plus ou moins collectifs. Il y a des maisons de peintres, il y a des cités de peintres qui peuvent être plus ou moins spontanées, plus ou moins organisées. Et il y a toujours eu des immeubles qui ont été construits pour les peintres. Et c'est d'ailleurs, je crois, un problème. Enfin, c'est à la fois une aubaine et aussi peut-être un problème pour les peintres. Je me souviens que ma mère était peintre et elle, elle habitait dans le centre de Paris, et elle avait des amis qui habitaient dans une cité de peintres à Montmartre, justement, je ne sais pas si c'est celle dont vous parlez. Et quand elle allait les voir, elle en revenait avec un peu d'effarement. Enfin, elle se disait, comment est-ce que tous les peintres peuvent être rassemblés comme ça, une communauté de peintres, à la fin, ça doit être invivable.
J'ai rencontré dans les années 80 un peintre dont le nom n'est pas très connu, c'est Clouguet, qui avait un contrat avec une galerie new-yorkaise qui était de peindre chaque année 3 tableaux de Paris. Chaque tableau lui était payé 80 000 francs. Alors je voulais savoir si vous avez d'autres exemples de tels contrats avec d'autres villes et ce que deviennent ces peintures. Si elles vont dans les musées, par exemple, ou alors si elles finissent comme de vieilles croûtes.
J'ai pas très bien entendu. D'ailleurs, vous parlez de commandes faites par des galeries,
notamment des galeries à l'étranger. Clouguet avait un contrat avec une galerie new-yorkaise.
Pour faire des tableaux représentant Paris.
Représentant Paris. Oui. Des paysages de Paris.
Oui, mais ça, je crois que ça a toujours été fait. Il y a eu des commandes de peinture de Paris, mais il y a aussi eu des absences de commandes. Et c'est une des choses, je crois, qui serait intéressante à analyser, c'est les tableaux qui n'ont pas été faits sur Paris. Peut-être que ça rejoindra l'intervention précédente, mais je pense, par exemple, Courbet, quand il a été emprisonné à Sainte-Pélagie, allait sur le toit de la prison et a été enthousiasmé par le spectacle du Paris, du Paris qu'il voyait de ce point élevé, et il a demandé au directeur de la prison l'autorisation de peindre Paris, de peindre ce qu'il voyait. Et évidemment, l'autorisation lui a été refusée parce qu'on a dû considérer que c'était beaucoup trop dangereux de laisser un peintre sur le toit d'une prison. Et il y a eu également l'exemple de Manet qui avait fait une demande pour peindre Paris à l'Hôtel de Ville au moment de la reconstruction de l'Hôtel de Ville, et on n'a jamais répondu à cette demande. Donc je crois qu'il y a un effet de commandes faites et de commandes non faites qui a toujours été un peu la dominante dans l'histoire de Paris.
Mais il faut savoir, vous pourriez faire une deuxième conférence sur la vie grouillante des peintres, notamment il y a beaucoup de portes ouvertes dans le 20e, dans le 11e, et il y a des gens qui sont sortis des Beaux-Arts, qui ont peut-être maintenant 40 ans, et qui ont vécu dans des squats, le 20e s'est beaucoup transformé, et qui sont restés dans ces lieux, et qui ont maintenant des ateliers de la ville de Paris. Et il y a beaucoup de gens aussi dans des squats actuels, et il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de squats qui deviennent officiels en dehors de Paris. Je crois que c'est pas fini là,
ouais,
à Paris.
Ouais, ouais.
Ça grouille. Ça existe toujours.
Ouais, ouais, je crois qu'il faut
faire un deuxième tableau pour l'avenir maintenant.
Ouais, je vous remercie. Je crois qu'effectivement, vous avez raison de signaler ça. Et c'est l'un des aspects extrêmement intéressants en ce moment de la vie artistique parisienne, de la vie artistique sur et dans Paris.
Eh bien, non. Eh bien, Frédéric Gossin, merci beaucoup.